Merci. On va immédiatement enchaîner avec Marie-France Lecomte pour nous raconter une... Oui ? Tu veux... Ah, vous avez un verset. Non, ça va.
Ça dépend de la présentation qui va arriver.
Non, ça va.
Ça va ?
Si c'est...
C'était mieux, enfin, c'était plus logique. Je ne sais pas si le micro est allumé.
Donc, Alexandre Lefebvre.
Si. Donc, j'ai 10 minutes... passer après deux personnalités comme ça, c'est un peu difficile, mais je vais essayer de vous apporter des informations intéressantes en plus. Donc je suis très heureux d'être ici. Je m'appelle Alexandre Lefebvre, je travaille à l'université de Jean Blou, l'université de Liège, en tant qu'assistant de recherche du professeur Issam Djidjakli, qui n'a pas pu être présent ce soir. Je suis également cofondateur d'une spin-off ce matin. Mais je vais en parler plus loin. Donc je vais un peu me présenter dans toute la présentation et essayer de faire des liens avec ce qui a été dit. D'abord, je suis bruxellois, donc le cas de Charleroi, je le connais parce que je viens faire du sport ici, mais tout ce qui est agriculture urbaine et dynamique sociale, je le connais moins bien, même si j'ai déjà eu un projet, on aura l'occasion d'en parler. J'ai commencé mes études à Bruxelles, à l'ULB, en agronomie, et ben, je suis intimement urbain, je suis toujours né dans une ville et j'ai toujours eu une volonté de me reconnecter à la nature, que ce soit par des choses très banales, être scout et des choses comme ça. Et du coup, les études de sciences m'ont toujours intéressé et puis les études de bio-ingénieur pour comprendre cette nature, savoir tout ce qui a été expliqué, de comprendre tout ça en détail. Mon parcours m'a mené à Jean Blou, où là ils sont vraiment spécialisés dans l'agronomie avec une large gamme de masters. Et donc j'ai pris le choix d'étudier l'agronomie et l'économie, mais tout ce qui n'était pas les grandes cultures, tout ce qui n'était pas la production animale. Et par chance, à Jean Blou, il y avait moyen d'avoir des informations sur ça, sur l'agroécologie, etc. C'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup dans cette université, donc je suis assez content d'avoir atterri là-bas. Ensuite, diplômé, j'étais plein d'idéalisme, comme certains dans la salle, j'avais des projets associatifs, etc. Les politiques promettaient énormément d'emplois dans l'agriculture urbaine, donc moi je me suis lancé à fond là-dedans. On a été vite déçus par des retours de politique, on a mené des énormes projets avec plein de personnes sur un projet de 32 hectares à Boisfort, et au final, ben, ça sera un golf et des centres commerciaux. Et on a été à peine consulté, donc tout ce qui est démarche participative à l'époque, c'était pas vraiment trop la mode. Maintenant, heureusement, ça commence à émerger. Du coup, je suis sorti de mon idée de projet personnel pour rejoindre une initiative qui existait déjà, qui s'appelait Éco-Innovation. Et là, ben, aussi, ils avaient beaucoup de belles idées, mais il y avait des problèmes internes et aussi liés aux politiques qui ont fait que ben, l'association a fait faillite, mais a donné naissance à une coopérative. Pour reprendre ce qui vient d'être dit par rapport à l'arbre, un effondrement n'est pas toujours une mauvaise chose, et dans ce cas-là, c'est vraiment une bonne chose. Pour répondre à quelque chose qui a été dit tout au début, dans cette serre, on produisait des kiwis, donc il est tout à fait possible de manger des kiwis en Belgique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a moyen de faire pousser des kiwis, donc ça c'est quelque chose, un détail, une anecdote intéressante pour vous. Donc agriculture urbaine, agriculture locale ne veut pas spécialement dire... on va manger plus que des carottes et des choux. Il y a vraiment une gamme de choses possibles à faire en Belgique. Même sans prendre du high-tech, il y a moyen de faire plein de choses. Ensuite, donc, suite à l'effondrement de cette association, j'ai dû me réorienter parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de boulot en agriculture urbaine. Et j'ai été du côté de CSD ingénieur, où là, j'ai pu apprendre plein de choses par rapport à l'énergie, notamment l'éolien. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la soirée. À Jean Blou, j'ai pu revenir après une année dans l'éolien parce que ça, c'est, l'agriculture urbaine s'est vraiment développée. Tout ce qui a été dit avant est une vérité dont je peux témoigner. L'agriculture urbaine se développe tellement vite que le professeur Issam Djidjakli, dont je suis l'assistant, n'avait plus le temps de répondre à toutes les sollicitations qu'il avait. Et moi, grâce à mon expertise associative et grâce à mon travail plutôt d'ingénieur d'études chez CSD, ben, j'ai pu l'accompagner. L'accompagner, ça veut dire l'aider à encadrer les nombreux étudiants qui prennent les cours qui fournit, et aussi répondre à des questions, que ce soit de politique, de petites communes, de grandes villes, ou même de simples architectes qui veulent intégrer l'agriculture au sein d'un bâtiment. Donc ça a vraiment explosé. On a créé ce qu'on a appelé un centre de conseil en agriculture urbaine, donc une structure assez informelle qui n'avait pas de statut à l'époque. Et on s'est retrouvé, ici il y a un petit onglet projet, vous pourrez voir tout ça sur agricultureurbaine.be si vous voulez en savoir plus. On a un onglet projet qui n'a pas arrêté de se remplir et j'ai eu de plus en plus de travail. Et ça m'a aussi permis de voyager, parce que j'ai rencontré beaucoup d'acteurs de l'agriculture urbaine en Belgique. Et il y a des opportunités qui sont offertes aux gens qui ont des initiatives comme ça. Renseignez-vous, il y a des bourses qu'on peut obtenir pour échanger avec des autres. Ici, c'est un exemple concret qui peut être intéressant pour Charleroi. Ça s'appelle le Centropole Roulant, c'est à Montréal. Et en fait, en dessous, ils préparent des plats pour des personnes qui sont précarisées, isolées, des personnes âgées qui ne savent pas aller au magasin, etc. Et ils ont justement fait ce choix de se fournir en aliments locaux. Donc ils ne produisent pas tout sur leur toit, c'est on va dire anecdotique, mais ils ont voulu le faire aussi chez eux. Pas seulement dire aux autres, faites ce que je dis, mais aussi montrer qu'eux participent, un peu comme dans le potager collectif Excel d'Olivier. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment possible sur pas mal de bâtiments, ça demande juste un peu d'expertise, mais c'est vraiment possible. J'ai aussi pu voyager à Hong Kong, où on a vu que peu importe le type de ville, les problèmes qu'on a parlé ce matin se retrouvent. Et ici, c'est le potager de Mapopo. C'est un énorme potager. On voit qu'il est entouré de buildings qui font plus de 40 étages. C'est à peu près la norme à Hong Kong, donc ce n'est pas si choquant que ça quand on a été. Mais les promoteurs immobiliers ont la volonté de construire sur le terrain, alors que historiquement, ça a toujours été des potagers, et que des potagers, comme dans nos régions, il y en a de moins en moins là-bas. Donc c'est pour dire que le problème est vraiment global. Et il y avait une remarque qui avait été faite avec la cohérence des différentes politiques. Il y a plein de projets aussi à Hong Kong de potagers sur les toits, de zones où on va essayer de dépolluer des endroits pour refaire des potagers. Et c'est des politiques au final qui ne sont pas cohérentes parce que d'un côté on va construire sur une terre qui est fertile où la connaissance est bien présente et de l'autre côté on va essayer d'artificialiser l'agriculture à certains endroits et envoyer plein de gens dans les conférences de monsieur en horticulture pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, alors que le savoir est là, et souvent on détruit le savoir et on détruit la qualité du sol. Donc à Charleroi, c'est certainement une chose qu'il faut éviter, c'est essayer de préserver les poches qui restent de savoir, les poches de biodiversité qui existent. Là, vous rentrez dans mon intimité, donc ça c'est mon logement à Bruxelles le long du canal, j'ai un petit appartement là quelque part, et on a développé avec nos voisins une association qui s'appelle Mamita, ça veut dire la petite maman en espagnol. On ne voulait pas rejeter une communauté néerlandophone ou autre, on voulait un nom neutre. Et on ne voulait pas non plus être accolé au réseau des transitions, etc., se réclamer comme des gros écologistes. L'objectif n'était pas là, l'objectif c'était vraiment la cohésion sociale. Et donc, notamment, on a un compost collectif, des ruches sur le toit et des bacs potagers. Parce que monsieur a dit que c'est important de garder des espaces, enfin il faut réfléchir les espaces et pas avoir seulement des espaces de détente, etc. Mais dans les contextes très urbains comme ici, le potager au milieu du jardin, c'était juste pas possible. Il n'y a déjà pas assez d'espace pour les enfants pour jouer, donc on ne peut pas non plus supprimer tous les gazons. Donc, je suis assez favorable au fait que les gazons, c'est une monoculture qui souvent sert à rien, qui sert juste à décorer. Mais dans certains cas, et certainement à Charleroi aussi, il faut savoir jouer de la bonne mesure, et des fois une des solutions peut paraître un peu high-tech et reprochée par certains parce que ça demande là du plastique. On essaie de faire ça le plus durable possible, mais ça permet quand même d'avoir une production locale et ce sera toujours mieux que les courgettes qui viennent d'Espagne par exemple. Ceci m'amène à l'actualité pour moi, c'est que je suis en train de démissionner de mon poste de chercheur à l'université parce que l'agriculture urbaine explose et que les demandes sont de plus en plus grandes. Et du coup, on a décidé de ne pas se mettre dans une espèce de concurrence malsaine avec d'autres bureaux d'études et se lancer nous-mêmes en tant qu'entreprise. Et donc, on a créé la spin-off GreenSurf pour Green Solution for Urban and Rural Farming. Et ça rejoint pas mal de choses qui ont été dites ce soir. C'est qu'on n'a pas voulu créer une entreprise d'agriculture urbaine pour mettre toute l'agriculture dans la ville. Ça n'aurait aucune cohérence. La cohérence, c'est vraiment de produire localement les choses qui ont un intérêt à être produites localement, comme les fruits et légumes qui supportent mal le transport, etc. Mais les énormes champs de blé qui demandent des superficies importantes resteront dans les surfaces agricoles belges. Donc, on ne va pas produire au centre de Charleroi des hectares de céréales. Et c'est des ressources en termes de calories, bien expliquées par Pablo, qui sont très importantes. On ne se nourrit pas de feuilles de salade, on se nourrit de calories qui proviennent des féculents, des céréales, etc. Donc c'est quelque chose qui est important à savoir. L'agriculture urbaine n'est pas là pour remplacer l'agriculture rurale. Et il faut vraiment faire des liens. Une chose qui n'a pas trop été dite sur l'agriculture urbaine, si je ne dépasse pas trop le temps, c'est que les modèles qui se mettent en place se caractérisent par une mixité très forte de fonctions. On a parlé de la santé, de l'environnement, un petit peu du social, mais il y a aussi l'économique. Beaucoup de modèles qui se mettent en place, par exemple un très connu qui était présenté à la fin de la présentation de Pablo sur les toits à Brooklyn. Ils gagnent plus d'argent sur les événements qu'ils organisent sur le toit, dans le potager, que sur les légumes qu'ils vendent et sur le prix des visites qu'ils font monter. Donc souvent, il y a beaucoup de fonctions autres que simplement le social et la production pure. Par rapport aux cantines scolaires, j'ai des collègues à Jeanblou justement qui sont en train de mener une étude sur la province de Namur pour savoir comment réapprovisionner toutes ces cantines scolaires en circuit court. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment soutenu par le pouvoir public. Donc les choses vont dans le bon sens. Et il y aura prochainement des résultats, j'espère. Je vais passer certains détails. Je vais prendre les choses qui vous intéressent le plus. Par rapport à tous les mouvements qui se mettent en place, on en a parlé de certains. J'en connais deux qui pourraient être intéressants par rapport aux choses qui ont été dites. Il y a les GAL, c'est les groupes d'action locales, qui sont justement des regroupements de communes qui permettent de faire une stratégie de développement durable plus large que juste la délimitation territoriale de sa commune. Malheureusement, ce sera souvent la délimitation territoriale de trois communes, mais bon, c'est déjà un plus. Et une autre chose qui est en train de se mettre en place, qui est liée à des choses qui ont été dites juste avant, c'est les ONG se mettre ensemble pour créer des choses plus transversales avec des ONG qui travaillent au sud, des ONG qui travaillent ici, des associations. Et une des dernières nouveautés, c'est les BAP, les Brigades d'Action Paysanne, je pense que c'est ça. Donc en fait, comme un système de covoiturage où les gens se mettent sur un site internet pour dire « moi j'ai de la place, vous pouvez embarquer dans ma voiture », ben là c'est les paysans qui vont se mettre sur un site internet, qui vont dire « j'ai besoin de main-d'œuvre à tel moment », et les gens vont s'organiser pour donner cette main-d'œuvre gratuite et bénévole. Et donc c'est du win-win pour les gens qui veulent s'investir dans les potagers plutôt qu'aller à la salle Basic Fit, par exemple, pour citer une marque. Donc voilà, je vais conclure sur le fait que voilà, vous êtes ici. Et donc au final, j'ai parlé beaucoup de moi, on parle beaucoup de nous, mais dans ce débat-là, je pense qu'il y a une chose qui est très importante et qu'il faut un jour que l'homme assimile, c'est que l'homme n'est pas au centre de l'univers. On commence à comprendre que l'homme n'est pas au centre de son écosystème, que la Terre n'est pas plate. Mais c'est un truc qui est bateau à rappeler, mais il faut savoir aussi prendre un peu de recul par rapport à nous, à nos convictions, à ce qu'on pense qu'on est. Voilà, vous êtes ici. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de conférence.
Merci beaucoup.